vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet, Michaël Goncalves, Elsa Olaizola.
Bonjour, bonsoir. Fini le chapeau, le nœud papillon et les bretelles. Fini aussi le nom de scène sous lequel son groove s'était fait cher à nos yeux et à nos oreilles. Ben l'Oncle Soul veut désormais qu'on l'appelle Ben, tout simplement, et préfère arborer bonnet ou casquette. 10 ans après son premier opus, sa voix chaude est de retour avec un 4e album studio aux accents multicolores, puisqu'on y décèle des accents pop, jazz, hip-hop et même reggae. 4 ans après son hommage à Frank Sinatra, voici donc Addicted to You. Il est disponible chez Blue Note et vous m'en direz des nouvelles.
No, you know we'll never ever break these bonds. A little bit of love makes me feel strong. When I get nothing but you to hold so tight, something inside me says you're gonna make it alright. Two trees coming from the same soul, the same seeds. I love the way you sway through the same breeze. Just two trees coming from the same soul, the same seeds. I love the way you sway through the same breeze. Just two trees.
Bonjour Ben.
Bonjour.
Two Trees en français, deux arbres, hein, c'est le titre qui ouvre ce nouvel album. Alors je suis pas un grand botaniste, mais je sais qu'un arbre ça a un tronc, des branches et des racines. Et ça commence par les racines. Donc on va commencer par les racines. Quelles sont les racines de cette chanson, Ben?
Écoutez, en fait je suis allé à Brooklyn rencontrer un groupe de compositeurs qui s'appelle Like Minds. Et c'était à Brooklyn, il y avait des travaux à côté de chez eux. Et il y avait un building qui était en train de se construire et sur le panneau, il y avait deux arbres, l'image de deux arbres dont les racines se mêlent et dont les branches également, on peut penser, grandissent, évoluent ensemble. Et voilà, c'était juste avant que je les rencontre et on a fait ce morceau ensuite.
Donc deux arbres qui se partagent les mêmes racines, qui se partagent les mêmes branches. Alors pour continuer la métaphore botanique, la graine de cet album, elle est quand même assez singulière. Hein. C'est vous qui l'avez planté un peu tout seul, puisque vous avez décidé de le produire seul, cet album. Et pourtant, vous êtes tout sauf seul, puisque vous avez décidé de vous la jouer collaboratif. Vous avez lancé un appel sur les réseaux sociaux. Comment vous est venue l'idée?
Bah, c'est le monde moderne. On est tout le temps derrière nos écrans. À expliquer ce qu'on fait, voilà, en fait, je me suis dit pourquoi pas aller carrément chercher la matière avec les internautes et leur demander sur nos réseaux sociaux. Alors ça, c'était sur Facebook, sur Instagram. Je leur ai demandé évidemment aux musiciens de m'envoyer de la musique et voilà, j'ai reçu plus de 300 morceaux assez rapidement.
Donc c'était des musiciens que vous connaissiez déjà, qui étaient amis comme on dit avec vous?
Non, pas du tout, c'était vraiment des internautes. Moi, c'est une page publique, hein, c'est une page fan. Donc, une fois qu'on est abonné à mon compte Facebook ou Instagram, tout le monde peut nous contacter et tout le monde peut nous envoyer de la musique éventuellement. Donc, non, c'était vraiment des inconnus. Alors, des musiciens professionnels et puis aussi, il y avait des musiciens plus amateurs. En tout cas, j'ai tiré 11 morceaux de cette demande, quoi.
Et vous avez tout écouté?
Alors j'ai écouté 300 morceaux parce que j'en ai reçu au bout de trois jours, il y en avait 300. Alors j'ai demandé à tout le monde d'arrêter de nous envoyer des morceaux, hein. J'ai dit bon là on en a reçu énormément déjà, donc laissez-moi trier ça. Et en fait j'ai trouvé une trentaine de morceaux sources dont l'origine me semblait intéressante. Donc derrière j'ai développé une vingtaine de morceaux et j'en ai gardé 11 pour l'album.
Alors comment est-ce que vous avez fait le tri? Qu'est-ce qui a guidé votre choix?
Oh, franchement c'est un choix de cœur, hein. Ça a été que des coups de cœur quand on a 300 morceaux à écouter. Finalement, c'était vraiment j'aime pas, aussi simplement que ça.
Ah oui, impitoyable.
J'essayais d'être vraiment assez concentré et en même temps assez ouvert. Et dès qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, je le choisissais. Et après, bon, ça demandait du travail en studio, etc., avec les musiciens, mais c'était sympa de partir non pas de la page blanche, mais de quelque chose qui est déjà qui a déjà éclos, en fait, voilà.
Oui, et donc cet arbre-là, il a fallu le tailler, il a fallu l'élaguer, il a fallu le soigner, en quelque sorte.
Oui, exactement, c'est ça. L'arroser aussi.
L'arroser aussi, oui. Alors justement, mais pour continuer, justement, on va pas filer la métaphore pendant toute l'émission, hein, je vous rassure tout de suite. Mais bon, les feuilles de cet arbre, elles sont quand même très très variées, parce que les compositeurs et les beatmakers qui ont permis aux feuilles de germer sont quand même extrêmement différents. Cet éclectisme-là, c'est conforme à la musique que vous aimez, que vous avez l'habitude d'écouter ?
Eh ben, de plus en plus, j'essaye d'assumer quelque chose qui n'est pas seulement un choix de comment t'expliquer ça. En fait, il y a la musique qu'on fabule, la musique qu'on fantasme, la musique qu'on aime, et puis la musique qu'on est finalement. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose de très honnête, c'est-à-dire dès que c'est un terrain de jeu sur lequel j'ai envie de jouer. Et bah, accepter le match, en fait. Accepter le match. Et pas toujours faire une sélection de morceaux comme j'aurais voulu ou comme je voudrais. Et c'était ça, l'enrichissement de cet album, c'est de voir la variété d'univers dans lequel je me sentais à l'aise et j'avais envie d'exprimer quelque chose.
Donc en R&B, en rhythm and blues, en afro, un peu en reggae aussi
Ouais, en trap, en hip-hop, il y a vraiment plusieurs couleurs sur cet album. Après, le travail quand même de réalisation que j'ai fait, c'est que j'ai appelé des musiciens pour parfois trouver comme un peu une ligne directrice, quoi, de pas perdre tout à fait le fil.
Et vous avez aussi pensé un petit peu nostalgie sur cet album ?
Nostalgie, non, pas du tout. Non. Joie, bonheur, énergie. Et puis j'ai pensé au live aussi, avec quelques petits arrangements parfois de cuivre, hein, voilà, et non, pas tellement nostalgique, non. All my life, I've been working hard, yes I wanna be by your side, I'll be shining bright with you my lady. J'avais pas grand chose à offrir, pris entre le café et l'ennui, je filais droit vers le pire, yeah. Elle m'a dit, toi, je te vois venir, tu vas pas tarder à flétrir, faut que tu t'envoles vite. Ici, les portes sont verrouillées, avec moi, tu seras libre d'écrire une histoire digne de celle qu'on lit dans les livres. De minuit à minuit, sous le soleil ou la pluie, je te promets chaque jour un verre de cette joie qui rend libre, oui. Oublie les diamants, les saphirs, ce qu'elle veut, c'est les tripes. Bon sang, ma soeur, elle sent que chez moi, y'a un truc électrique. Donc je valide le deal, et j'entre dans l'arène. Et depuis, je n'ai jamais quitté la catégorie.
Elle est entrée en mes jours, leurs goûts ont changé. Je vise vers l'avenir et dis merci au passé. Pourtant j'ai dû quand même en fumer deux au passage. Des idiots à qui la vie n'a pas appris le respect. Dommage, tcha, sa chevelure danse dans le vent. Comme les crânes de mes bougres bougent dans le van, marquant les temps, imaginant les phrases. La force de l'encre alors que ne voit que le talent dans les gants, yeah. All my life, I've been working hard, yes I wanna be. On fate before she knew me, yeah. All my life sucked like you never know. And the dreams that I got, hopping to starve in the wind so far. She's everything that I need. Let me come past that gate and I'll never go. She'd be my melody and heartbeat. I just want you, cause yeah, elle a donné des ailes à mon dos. Et une paire en extra pour mon bro. Puis elle m'a dit, chérie, c'est ça être libre. Si t'as faim, le monde goûtera alors à ton croc. Du calais fly en survêt en velours. Elle chante les mots de Maya Angelou, yeah. Elle vit partout autour du globe. Pour lui faire la cour, j'ai martelé tous les hoods et remonté le Nil en flou. Ciao. All my life, I've been
working hard, yes, I wanna be. All My Life, Ben, featuring I.A.M., hein, les fameux rappeurs marseillais qui dansaient le Mia dans les années 90. Vous aussi, vous avez dansé le Mia, Ben ?
Ouais, bien sûr, j'ai eu le temps, ouais.
Alors, c'était... comment ça s'est passé, cette rencontre avec I.A.M. ?
Ouais, nous, ça fait longtemps qu'on se croise, qu'on se connaît et qu'on s'apprécie. On s'est rencontrés sur un festival à Marseille, il me semble, la première fois. Et puis après... on n'a pas cessé de se recroiser au fur et à mesure des albums, des tournées, mais sans jamais vraiment passer du temps en studio. Et voilà, je trouvais que une des branches de cet arbre devait aussi faire un hommage au hip-hop, et je suis très content que ça ait été fait avec IAM.
Et pourtant, sous un label Blue Note qui est plutôt associé à l'excellence du jazz, vous vous retrouvez parfaitement aussi dans l'esprit du jazz, Ben ?
Ouais, bien sûr. Bah après, moi j'ai grandi avec des groupes de hip-hop qui samplaient le jazz. Tout ça, c'est vraiment, ça a vraiment les mêmes origines finalement.
Mais qu'est-ce qui vous lie au jazz ? Parce que votre précédent album, c'était un hommage à Sinatra, là aussi, c'était dans cette veine-là.
Ouais, bien sûr. Je passe mon temps à faire des clins d'œil au jazz parce que c'est une musique qui fait partie de ma vie. J'ai toujours écouté ça. Même le fondement profond du jazz, c'est une musique d'improvisation. Et voilà, j'aime quand jaillit la musique de l'inconscient, du lâcher prise. J'aime cette musique qui se crée au fur et à mesure des secondes et du vide qui passe. Enfin, je sais pas comment expliquer vraiment le truc, mais le jazz est un fondement de la musique très très important en fait.
Et les instrumentistes qui vous accompagnent sur cet album, ils viennent du jazz ?
Ouais, pour certains, ouais, le Christophe Lardo qui est guitariste, bon, il est connu dans le blues aussi, mais il vient d'une école de jazz, le bassiste aussi. Bon, après, quand on appelle jazz en France, par exemple, c'est souvent ça, en fait, les écoles. Hein. Les écoles de musique, c'est souvent jazz, quoi. Si c'est pas conservatoire classique, c'est jazz, en fait.
Donc, de toute façon, l'idée de ce disque, mais c'était déjà un petit peu comme ça aussi avant, c'est aussi de supprimer les frontières, quoi. Puisque là, entre le jazz, rythmique et pochette plutôt hip-hop, il y a ces accents R&B, ces accents pop, il y a un peu de reggae aussi avec le Jamaïcain Samory One. Vous êtes un artiste sans frontières.
Ben, j'aime garder ces frontières, mais j'ai mon passeport, quoi. J'aime aller dans un pays et en revenir. J'aime tisser des liens. Je suis métisse. J'aime souvent me définir aussi comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis un arbre né de deux graines différentes avec deux origines différentes. Et c'est une richesse, en fait, de pouvoir tisser des liens, dialoguer avec le monde entier. One, two, three, all right, everything's fine. Now you gotta listen closely, baby. Now you'll always be my lady, and you'll never catch me cheating. And I hope that I can give you my name. Maybe one day everything is fine. I'm coming for you. Committed to this thing. Can you hear me when I say everything, yeah, is fine? I'm coming for you. I want you forevermore. That's the best I got in store. I wanna be the best, yeah, for you, my life. I wanna be the best, yeah, my life. I wanna be the best, yeah, for you. Hold up, whoa. I want you to know that every day you're getting my best, my baby. And it's true, I do it for you, yeah. And if you're gone, I don't know why that's wrong. Come on, everything I'm grinding for. Girl, now don't be blind, you know. No, you got the best of me this time, yeah. And anything you need and more, all my love you got for sure. Girl, I want you here to share all my life. I wanna be the best, y'all, for you, my life.
The Best, l'un des titres de ce nouvel album, qui est d'ailleurs l'album des 10 ans, hein, Ben. Ça fait 10 ans que vous êtes apparu sur le devant de la scène avec Soulman, énorme tube issu d'un premier album tout simplement appelé Ben l'Oncle Soul. Alors forcément, lors d'un anniversaire comme celui-ci, l'anniversaire des 10 ans, on regarde un petit peu en arrière. Quel regard est-ce que vous portez sur le chemin parcouru en 10 ans ?
Bah écoutez, ça a été assez magique, je dois le reconnaître, puisque j'ai remporté un méga succès sur mon premier album. Je pense que il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font un carton plein sur leur premier album. Ça m'a mis vraiment dans une dynamique où ça a démarré à 100 à l'heure avec des concerts, avec des interviews, des passages radio, des passages à la télé. On a fait 13 pays différents sur ce premier album. On a continué de tisser des liens avec l'international sur le second et puis sur l'hommage à Sinatra. Donc voilà, c'est beaucoup d'enrichissement personnel, c'est vrai aussi, avec ces voyages, avec ces rencontres. Mais c'était assez beau aussi de voir vraiment le monde vu de ma place.
10 ans, Ben, ça rime avec changement, et donc notamment pour vous, changement de nom. Alors il est devenu quoi, l'Oncle Soul ?
Bon, écoutez, ça fait partie de mon histoire, de mon passé, de mes nombreux pseudonymes. Je pense qu'en fait, un artiste, il a envie d'avoir plusieurs périodes dans sa carrière ou dans sa vie artistique. Moi, là, j'ai l'impression d'avoir envie de tourner la page et de passer à quelque chose de plus frais, encore de plus dynamique peut-être, ou en tout cas ancré dans le temps que je suis en train de vivre, et justement de pas ramener la nostalgie du passé dans ma musique d'aujourd'hui. Et ça passe aussi parfois se délester d'un nom ou d'un pseudonyme
et d'un personnage aussi,
périodes. Oui, voilà.
Parce que c'est un personnage quand même, Ben l'Oncle Soul, hein, avec les bretelles, le nœud papillon, le chapeau. Là, même visuellement parlant, hein, sur la pochette de l'album, vous apparaissez très très différent. Là, c'est plutôt la casquette urbaine.
Bah, c'est une casquette contre le soleil, c'est plutôt...
Tout simplement. Ah oui, on va pas se prendre la tête dans les interprétations, c'est ça. Voilà, il n'y a pas les bretelles, il n'y a pas le nœud papillon.
Non, sur la pochette, j'essaie effectivement d'exprimer quelque chose qui peut jaillir de la musique urbaine. Mais bon, moi, j'ai vraiment grandi avec la soul music, avec le jazz et avec le reggae. Donc, c'est aussi une musique très organique. On peut penser que c'est un peu la pousse qui naît au milieu du bitume. Et j'ai essayé de garder quelque chose d'assez épuré avec juste un t-shirt blanc. Effectivement, la casquette, c'est pour parler de la musique urbaine et de la vie à la ville, parce que moi je suis plutôt un gamin des villes. Et puis l'idée aussi de croiser les bras, mais un peu comme si je portais un enfant, un bébé, c'est voilà, histoire d'imager aussi un peu la renaissance de cet album.
Alors en parlant d'image, Ben, il y a forcément une image qui nous vient à l'esprit dans l'actualité que l'on connaît, c'est l'image de l'Oncle Soul, mais de l'Oncle Ben's, puisque rappelons-le, hein, l'Oncle Soul à la base c'était un clin d'œil à Uncle Ben's, hein, la marque de riz. On a tous en tête le médaillon, hein, ce vieil homme afro-américain, son nœud papillon justement, qui figure sur les paquets de riz depuis 1946, et il se trouve qu'avec la polémique liée au décès de George Floyd aux États-Unis, le groupe Mars Food, qui est le propriétaire de la marque, a annoncé que ce logo, il allait être modifié parce qu'il est accusé de véhiculer des stéréotypes racistes. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, je crois qu'on est en train de vivre des temps assez intéressants de ce point de vue-là. C'est-à-dire, il faut savoir remettre en question le monde dans lequel on vit, les codes avec lesquels on vit, et surtout, bon, ça, il me semble que c'est un des fondements de notre société auquel on devrait faire un petit peu plus attention. Les souffrances doivent être entendues. Et alors, quand on dit entendu, c'est pas simplement oui, d'accord, ok, on fera attention. Oui, ok, on va changer une marque de riz. Je pense qu'il faut aller plus profond en fait dans ce dialogue et vraiment écouter ce que les gens qui font partie de notre société ressentent en fait finalement. C'est une question de sensibilité, de ressenti et d'histoire aussi. Ouais. Mais... Il faut savoir rétablir l'histoire quand elle est nécessaire. Moi, quand j'ai grandi avec les images de l'oncle Ben, du prince de Bel Air, de la famille Huxtable comme le Cosby Show, ce genre de type de famille noire qui ont réussi et qui sont du coup présentables, c'est stéréotypé. Oui. Stéréotypé. Nous,
mais vous vous êtes rendu compte à l'époque, quand vous avez choisi justement votre nom de scène, vous rendiez compte que vous aspiriez d'un visage qui véhiculait des stéréotypes racistes?
Bah, si vous voulez, la musique afro-américaine, elle mélange un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des, on va dire que il y a une partie du jazz, par exemple, qui a été complètement fait et pensé pour plaire aux blancs quand les arrangements sont d'une manière, il y a eu une réflexion en fait sur le public. Quand Berry Gordy a commencé toute son histoire avec Motown aux États-Unis, c'est pas les noirs qui achetaient les disques puisqu'ils étaient trop pauvres pour en acheter, donc la cible. Voilà, c'était pas seulement de la musique sincère avec une qualité et du talent chez les musiciens, c'était aussi de la stratégie commerciale. Et forcément, dans une stratégie commerciale, il y a de la manipulation et il y a des axes qu'il faut savoir identifier. Nous, on les a identifiés au fur et à mesure, notamment avec grâce au hip-hop, qui se voulait plutôt une musique de cœur, à revendiquer plutôt des problèmes, c'est-à-dire à essayer de chercher à toucher plutôt non pas les gens qui auront l'argent pour toucher pour pouvoir acheter le disque, mais plutôt les gens qui ont on va dire les mêmes perceptions et qui vont pouvoir en fait comprendre des choses et dialoguer avec vous. Donc c'est se retourner plutôt vers le peuple que vers l'élite. Et aujourd'hui, oui, tout ça s'est chargé dans ma musique. J'ai changé de nom avant que Uncle Ben change de nom.
Oui.
Donc, je pense aussi avoir compris certaines choses au bon moment.
Alors, il y a quelques jours, Ben, vous avez participé à l'inauguration à huis clos d'un tournoi de tennis, un tournoi lancé à Nice par Patrick Mouratoglou, qui est l'entraîneur de Serena Williams. Et à cette occasion, yes, vous avez chanté ceci a cappella.
In a little tent, and oh, just like a river, I've been running ever since. Yeah, it's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living. I'm not afraid to die. I know there's something so much beautiful beyond the sky. It's been a long, long time coming, and I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go.
Duo a cappella avec une très grande voix gospel, Linda Lee Hopkins sur A Change Is Gonna Come, la chanson de Sam Cooke qui est un des emblèmes du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Chanson à la fois de combat, chanson de lutte, mais aussi chanson d'espoir hein, dans ce combat contre le racisme. Est-ce que vous pensez que le monde est en train de changer, Ben?
Je l'espère de tout cœur. Il change, il y a des choses qui bougent, mais il faut vraiment aller au fond des choses cette fois-ci. C'est les seules choses qui feront qu'on aura un avenir en paix et serein en fait. Hein.
Aller au fond des choses, ça veut dire par exemple déboulonner les statues, débaptiser les bâtiments publics, les écoles qui rendent hommage à des personnalités qui en leur temps ont soutenu l'esclavage ou la discrimination. Le débat fait rage en ce moment en France. Vous êtes dans quel camp, vous ?
Oui, moi je alors déjà je pense que il y a des analystes et des historiens qui remettent aussi l'histoire du déboulonnage. Et je pense que en fait aujourd'hui d'abord, il faut refaire cette éducation là, il faut reparler de ça. Ça s'est fait de tout temps en fait, le déboulonnage. Quand on enlève une statue, ça veut pas dire qu'on le gomme et qu'on l'efface de l'histoire, c'est gravé dans l'histoire. Ça veut juste dire que ça ne correspond plus en fait à l'image que la société moderne a envie de se représenter. En fait, il faut savoir aussi tourner la page avec l'histoire. C'est tout simple, hein, mais je pense que parfois il faut savoir aussi se délester de symboles qui sont négatifs et qui sont perçus aussi par la population comme humiliants ou comme trop dur en fait à encaisser. C'est dur en fait c'est dur d'avoir parfois des bourreaux représentés sur une place publique. Je trouve ça dur, moi.
Et en matière de racisme, le rapprochement entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France, c'est pertinent ?
Oui, d'ailleurs, sinon ça ferait pas autant écho quand Adama Traoré réussit à rassembler 120 000 personnes à Paris ou 100 000 personnes, je sais plus, mais c'est que c'est pas seulement un phénomène de mode, c'est aussi quelque chose que les gens ressentent, que les gens ont observé et dont ils sont conscients. Donc finalement, je pense que Adama Traoré, elle est là depuis 2016, il me semble, à lutter pour la justice de son frère, et par la même occasion, elle s'est vue endosser aussi de représenter aussi toutes les injustices et cette histoire de violence policière et cette histoire profonde de racisme en France, et je pense que c'est très bon. Il faut savoir sortir en fait aussi il faut savoir sortir le mal qui est en toute âme, et franchement ce sera libérateur le jour où vraiment on entendra ça, et ce sera pas perçu comme une agression de la part de quiconque. Il faut savoir vraiment exorciser ensemble. Moi je fais de la musique et je peux vous assurer que main dans la main avec mes musiciens, ça nous arrive d'exorciser des choses qui nous sont dures à vivre, les choses de la vie, et je suis content d'avoir cette équipe de musiciens avec lesquels je peux évoluer, avancer, débattre, reconnaître, différencier, analyser et grandir. Le but, c'est, il me semble, hein, dans cette histoire de racisme, c'est pour le coup de vivre bien les uns avec les autres en reconnaissant les différences, en reconnaissant la richesse culturelle, en reconnaissant l'histoire de chacun, et d'être vraiment en paix avec ça. C'est-à-dire que il y a des faits, il faut s'en tenir aux faits et analyser en fait ce que ça a généré sur les gens en fait.
Et vous-même, Ben, vous avez été victime de racisme ?
Oui, bah bien sûr. Oui. Moi, je suis métisse et j'ai la peau plutôt claire. Mais j'ai les cheveux bouclés, j'ai déjà vécu ça, et puis
y compris dans le milieu de la musique.
Bon, de toute façon le milieu de la musique n'est autre que un microcosme de la représentation de ce que peut être le monde, hein. Moi j'ai pas l'impression qu'on soit un monde à part, hein.
Yeah. Every time I'm falling, you're the one I'm calling, and everywhere I'm going, I know your eyes are on me. I'm addicted to you, 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 you. I'm addicted to you, 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 you. I'm addicted to you, 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 you. Yeah, yeah. When I feel hurt,
when I'm underground, ground, when I feel like dirt, longing for the sound, sound of the freeing bird. I know I'm falling, yeah. You know I'm falling, and when I feel pain, I always think about you to be strong again. I can hear you telling me, stop worrying, babe. You know I'm falling. You know I'm falling. Every time I'm falling, you're the one I'm calling. And everywhere I'm going, I know your eyes are on me. 'Cause I'm addicted to you, you, you.
Addicted, Ben qui est avec nous aujourd'hui sur RFI pour nous présenter son nouvel album Addicted to You, une très belle chanson d'amour, chanson de souffrance aussi. D'ailleurs, l'amour et la souffrance, c'est peut-être un petit peu la même chose, non?
Ben ouais, par les temps qui courent, on se rend compte que c'est presque la même chose. Il faut faire attention juste à ce que ça se transforme pas en haine. Et a priori, ça va bien se passer.
Alors, on va faire un petit questionnaire, un mini questionnaire sur vos addictions. Ben, est-ce que vous êtes accro au téléphone portable?
Ah, je dois le reconnaître.
Est-ce que vous êtes accro au... Oui, est-ce que vous êtes accro aux jeux vidéo?
Non, pas du tout, par contre.
Bon, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle I Love This Game, mais c'est pas du tout une chanson de gamer. Hein.
Non, c'est une chanson de gamer du basket.
Ah, voilà. Donc vous êtes accro au basket, alors?
Exactement, ouais. C'est le sport que je pratique depuis que j'ai 11 ans.
Ah oui, et là, ça nous ramène aussi, justement, à l'influence américaine qu'on évoquait il y a un instant.
C'est vrai. Bon... nous, on a aussi la chance d'avoir des grands joueurs en France, hein, mais c'est vrai que c'est un sport américain.
Est-ce que vous êtes accro au sport, au-delà du basket?
Pas tellement, non.
Parce que sur l'album, quand vous croisez les bras, on a l'impression que vous faites pas mal de muscu, quand même.
Alors que je mange bien à la cantoche, quoi.
Ah, tout simplement, d'accord, très bien. Donc ça tombe bien, parce que la question suivante, c'est, est-ce que vous avez une addiction alimentaire?
Bah, le café, ça fait partie d'un peu de mes addictions, mais j'essaye de le modérer. Je pense que les petits plats de ma femme, c'est quand même ça, c'est une belle addiction, parce que il y a pas seulement que de la nourriture, il y a un truc presque spirituel dans sa bouffe. Il y a beaucoup d'amour, quoi. Donc
bon, d'autres addictions à signaler, Ben?
Ah, ma petite famille.
Alors justement, sur l'album, il y a une chanson qui s'appelle Next to You, et c'est aussi une histoire de famille. On l'écoute, on en parle juste après. Everything and sometimes, even you and me, my lady. And I don't know when the butter might fall out, it comes out you so fast. The only thing I know, I just wanna stay next to you, oh, right next to you, yeah, 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 yeah.
Everything is fine on bright days, yeah. When the rays are shining, baby. But if you feel the rain, boy, just call my name. I'm next to you, baby, baby. Yeah.
Oh, next to you, baby. Next to you, baby. Next to You, et la voix qui vous accompagne dans ce duo, Ben, c'est celle de la chanteuse malaisienne Yuna. Alors, vous nous racontez l'histoire de cette chanson. Je parlais d'une histoire de famille, un petit peu de ça, non?
Ouais, en fait, c'est une histoire sur la proximité, sur la connexion avec son enfant, avec sa... En l'occurrence, c'est mon histoire avec ma fille qui vient de naître et qui a fêté ses 1 an déjà. Et voilà, j'ai demandé à Yuna de partager aussi cette chanson, parce qu'elle partage ces valeurs-là. Et je trouve que voilà, Yuna est celle qu'on connaît, qui a fait des featuring notamment avec Usher, avec Tyler the Creator. Et je pense qu'elle est un des emblèmes vraiment de la musique métissée, quoi.
Être papa, Ben, ça change tout?
Ah ouais, ça change beaucoup de choses. ça change beaucoup de choses. Ça, ça donne du sens, vraiment. Bon, voilà, c'est, je veux pas rentrer dans la caricature de ça donne du sens à la vie, mais c'est quand même bien ce qui se passe.
Alors, on pourrait se dire que la paternité, ça amène une certaine gravité. Pourtant, l'album se termine par cette chanson, Let It Go.
Everything let it go, everything must fade. When the sun is back, no need to feel the rain. Everything let it go, oh no, here now we play. Come drop the rain, don't let us smile when the clouds away. Storm maidens, stick a light on a pin. Been whipping now for a while, and the reason for the grief is miles away. Oh, oh yeah, new light will never shine every night. Whenever the light is right, you're never gonna throw it away. Everything let it go, everything must fade. When the sun is back, no need to feel the pain. Everything let it go, oh no, here now we play. Yeah. Come drop the rainbow and let us smile with the clouds away. I sing it out, I sing it all right. No fight, have a glass and drink it all night. You might wanna dance with me and feel right. New sight, come my love, I hold you tight. Have a little sip of our everlasting wine. Do a little jump and we dump it. Chase the clouds, I'm wicked and sad. And we make the stars yours and mine. Everything will let it go, everything must fade. When the sun is back, no need to feel the pain. Oh, everything will let it go. Oh no, here and now we play. Come drop the rainbow and let us smile with the clouds away. I see you low down, sweet child. Everything will come back, be wild. Everybody's got a ghost night sometimes, and it's devastated. And there you wonder, whoever caused it better.
Let It Go, Ben qui est avec nous sur RFI, c'est la dernière chanson de l'album. Let It Go, c'est une sorte d'appel à la légèreté et au bonheur.
Ouais, c'est un lâcher prise. On parlait justement de la paternité, des liens familiaux, des responsabilités. Voilà, on a pleine conscience de tout ça et il faut aussi penser qu'on n'est pas grand chose.
Bon, un lâcher prise, ça veut
un petit peu de hauteur.
Oui, un lâcher prise, ça veut dire que vous trouvez qu'on se prend parfois un petit peu trop la tête.
En fait, il y a des tensions, il y a des crispations, et ça règle jamais trop les problèmes, en fait. Donc, il faut savoir prendre du temps pour soi, pour son bien-être. Il faut savoir prendre un petit peu de distance et de hauteur, de manière en fait à dialoguer plus justement et je pense être plus efficace, quoi, dans son everyday work.
Mais une chanson sur le lâcher prise dans une époque encore rongée par l'inquiétude du risque épidémique, ça tombe plutôt bien, on va dire. Mais vous avez réussi à la vivre cette période-là avec cette forme de lâcher prise, d'insouciance.
Bah écoutez, il fallait de la relaxation, il fallait de la méditation, il fallait bon aujourd'hui, c'est vrai que même les jeunes ils s'ouvrent à toutes ces choses comme le yoga, les étirements, le bien-être. Je pense que c'est plutôt bien joué. Le sport fait aussi partie de ces choses qui font énormément de bien et à la tête et au corps et à l'esprit. Donc oui, on a réussi. Bon, nous, on a la chance d'avoir un bout de jardin. On avait du soleil. Il a fait beau pendant cette période de confinement. Et puis, on était tous les quatre en famille. Donc, ce cocon d'amour, nous, ça allait. Mais bon, je pense ça a été plus difficile pour pas mal d'amis à moi qui étaient forcément dans une solitude, à distance, avec les écrans. Oui, d'accord, on a Skype, etc. Mais je pense que là, on s'est tous rendu compte qu'on avait besoin des uns et des autres quand même pour être en bonne santé.
Bon, prochaine étape maintenant, retrouver la scène, retrouver le public, retrouver les concerts.
Exactement. Et c'est pas une mince affaire. Bon, j'arrive pas trop à saisir encore par rapport aux choix qui sont faits par le gouvernement, parce que pour le coup, je crois que les parcs d'attractions, ça a réouvert. Les salles de cinéma, ça devrait pas tarder, non?
Ça y est, c'est fait. Depuis lundi. Depuis lundi, le cinéma.
Bon. Bah les concerts aussi, il faudrait.
Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup Ben. Addicted to You, votre nouvel album disponible chez Blue Note.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et dans ce contexte épidémique, la musique qui fait la renommée du Brésil est en crise. Musiciens, chanteurs, producteurs, mais aussi petites salles de concerts et vendeurs ambulants dépendent de ce secteur. Et bien souvent, tous ces gens-là gagnent leur vie grâce aux événements auxquels ils participent. Alors avec la pandémie, tout est à l'arrêt et un retour à la normale est très difficile à imaginer là-bas. Un sujet de Sarah Cozzolino, notre correspondante à Rio de Janeiro.
On n'entend plus de bossa nova sur la plage de Copacabana, plus de foro dans le quartier de La Paz, ni de samba dans le centre de Rio. Depuis 3 mois, la ville est silencieuse.
C'est un peu comme si j'avais changé complètement de ville. Normalement, j'ai les choix. Si jamais je vais sortir en n'importe quel jour, je vais juste trouver un concert que j'aime comme ça. Et pour un musicien comme moi, c'est très important d'avoir accès à cette ambiance en ébullition qui inspire, qui donne envie de faire partie de la scène, quoi, de la scène musicale.
Victor Camelo joue du piano et de l'accordéon. Depuis 3 mois, il ne peut plus faire de concert, mais il a réussi à conserver une partie de ses élèves à qui il donne des cours en ligne. À l'approche des traditionnelles festas juninas, les fêtes du mois de juin qui débutent pour la Saint-Jean et se poursuivent sur 2 ou 3 mois, il est un peu nostalgique.
Il y a des fêtes dans les écoles, les entreprises, et c'est vraiment pour toute la famille. Il y a des enfants. Parfois, tu joues 2 concerts le même jour, tu joues presque tous les jours de la semaine, et c'est vraiment le moment où moi aussi, si j'ai pas trop bien gagné dans les autres mois, ça fait un peu une compensation.
Le foro, style de musique et de danse venu du nord-est du pays, sont habituellement à l'honneur lors de ces fêtes. Ce mois-ci, le festival Saint-Jean na Rede, Saint-Jean sur les réseaux, tente une version en ligne de ce rendez-vous national. Un festival solidaire soutenu par de grands artistes comme Gilberto Gil et Elba Ramalho, qui permettra aux travailleurs de ce secteur de recevoir des dons.
Rassemblant des fans et des dons, des fonds, le but est de tenter de minimiser l'impact de la pandémie, parce que le résoudre complètement, c'est impossible.
Guilherme Velach est l'un des coordinateurs du festival. En tant que professeur de danse de foro, il a dû arrêter complètement de donner des cours et se sent assez déprimé.
Ça manque à mon corps et mon esprit. Ce mouvement, ce contact, l'étreinte de cette danse de couple, sa tendresse. Et je pense que je ne suis pas le seul.
Le foro comme le carnaval font la renommée du Brésil. Mais difficile d'imaginer ces moments de contact et d'agglomération intense dans le contexte de la pandémie. Pour Christina Coury, présidente du collectif de blocos de carnaval de Rio, ces groupes de musiciens et danseurs qui défilent pendant le carnaval de rue, le rendez-vous de 2021 est fortement compromis.
Je n'arrive pas à imaginer ces adaptations du secteur du divertissement comme le drive-in, la prise de température systématique. J'ai vraiment du mal à voir ça adapté au carnaval. Une manifestation culturelle où tout le monde est dans la rue.
Christina milite pour une politique publique de soutien du carnaval et rappelle qu'à Rio, l'événement génère près de 650 millions d'euros pour la ville et attire énormément de touristes. Pour la productrice culturelle Marcelle Oliveira, le confinement a souligné l'importance de la culture au sens large dans nos vies.
En
ce moment, tous ceux qui sont à la maison sont en train de regarder un film, d'écouter une musique, de lire un livre, ou alors de se souvenir d'un concert où ils ont été. L'art est très présent dans notre quotidien. Et les professionnels qui le rendent disponible doivent être valorisés. Parce que sans art, la société n'avance pas, elle devient folle.
Début juin, le projet de loi Aldir Blanc, qui du nom du grand parolier brésilien emporté par le coronavirus, a été approuvé par le Congrès. Il prévoit une aide d'urgence pour les acteurs du secteur culturel qui espèrent enfin pouvoir respirer après 3 mois de crise.
Sarah Cozzolino au Brésil. En France, du côté des musées à présent, cela fait plus de 3 mois maintenant que le regard énigmatique de Mona Lisa n'a pas croisé celui d'un visiteur. Plus de 3 mois, en effet, que le musée du Louvre est fermé en raison toujours de cette épidémie. Un musée emblématique, le Louvre, puisqu'il est le plus visité au monde, comme vous le savez, les touristes venus de tous les pays s'y pressent d'habitude. Eh bien, figurez-vous qu'il s'apprête à rouvrir. Alors, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour le 6 juillet. Mais bien sûr, avec des mesures particulières que nous détaille notre reporter Fanny Blechner, qui est allée en avant-première pour VMT.
La réouverture, c'est dans un peu plus d'une semaine et partout, on s'affaire. Ici, on vérifie le volet roulant de la boutique, là, on restaure la peinture d'une vitrine. Surtout, ce sont tous les éléments qui permettent de respecter les règles sanitaires qui sont en cours d'installation. Marquage au sol, distributeur de gel hydroalcoolique et fléchage. Il n'y aura pas de parcours obligatoire, mais une circulation parfois contrainte, comme dans la salle où se trouve la Joconde. Tout le musée ne sera pas accessible, seuls 70%, rappelle Jean-Luc Martinez, président directeur du musée.
Nous avons fait le choix de fermer les salles difficiles à ouvrir parce que petites, c'est le cas des petits cabinets de peinture notamment, donc à Denon, c'est le cas aussi donc des objets d'art de l'époque Louis XV et Louis XVI, parce que c'est des petites salles, donc difficiles d'établir la circulation, et le deuxième étage parce qu'il est traditionnellement le moins fréquenté. Mais aujourd'hui, donc, il y a plus de 30 000 œuvres de visibles, 45 000 m2. Je vous assure que en une journée, vous n'y arrivez pas.
Parmi les espaces ouverts, l'un de ceux qui plaît particulièrement aux familles, nous explique Leïla Chérif-Adria, adjointe au directeur.
On a été assez attentifs à ouvrir des espaces tels que les antiquités égyptiennes, qui vont être ouverts tous les jours et en intégralité pour pouvoir répondre à ces attentes, parce que on sait que les enfants sont assez friands de ce département-là. Voilà.
Un département à redécouvrir, pourquoi pas.
Je pense que c'est un très bon moment pour revenir découvrir le musée. C'est sûr que les premiers jours, la fréquentation ne sera pas celle qu'on connaît habituellement. Donc une façon de peut-être mieux apprécier les œuvres.
Le musée a déjà perdu plus de 40 millions d'euros depuis mars et s'attend à recevoir un nombre bien moins important de touristes dans les mois à venir en raison de la pandémie et de la fermeture des frontières.
L'été, nous avons majoritairement des gens venant des États-Unis, de Chine, du Brésil, etc. Donc si le public européen et le public français est au rendez-vous, la fréquentation sera de l'ordre de entre 20 et 30%.
Le nombre de visiteurs sera de toute façon restreint par mesure de précaution. Il faudra nécessairement réserver un horaire et si possible par internet. Quoi qu'il en soit, chaque visiteur de plus de 11 ans devra porter un masque à son arrivée et jusqu'à la sortie, des contraintes assez lourdes.
Peut-être que les gens aussi ont envie, on le voit, d'être dehors, de partager des moments en extérieur. Peut-être qu'ils n'ont pas envie aussi de se retrouver dans des lieux confinés. Or justement, le Louvre, ce n'est pas un lieu confiné. Il y a des grandes cours de sculpture, des grands espaces. Mais pour autant, c'est vrai que tous les sondages semblent l'indiquer, les chiffres des musées qu'on rouvert, c'est entre 2000 et 4000. Les grands musées internationaux qu'on rouvert, c'est le cas au Vatican ou au Château de Versailles, on pense qu'on va avoir autour de 5000 visiteurs par jour. Comme les espaces sont très 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 grands, en effet, on a l'impression qu'il n'y a presque personne quand il y a 5000 visiteurs.
Les musées à l'étranger, qu'évoquait à l'instant Jean-Luc Martinez, ont su faire preuve de solidarité en cette période de crise.
On a provoqué un certain nombre de réunions en Zoom avec nos collègues de Hong Kong, de Singapour, qui avaient déjà subi des questions de déconfinement, reconfinement, donc avec nos collègues américains au moment où la crise arrivait aux États-Unis, et puis avec tous nos collègues européens pour justement échanger sur les prêts. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule certaines expositions? Si on repousse tous d'un trimestre ou d'un semestre en même temps, ça marche, mais si on garde pas le même principe, ça marche pas.
Ainsi, la saison consacrée au génie de la Renaissance, initialement prévue au printemps, au Louvre, se poursuivra cet automne, avec une exposition consacrée aux sculptures de la Renaissance italienne et l'autre à Albrecht Altdorfer.
Reportage de Fanny Blechner. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec le dessinateur aquarelliste Joël Alessandra pour un très bel album de bande dessinée qui nous fait voyager, Les Voyages d'Ibn Battuta. Il est paru aux éditions Air Libre et vous m'en direz des nouvelles.